Permettez-moi de commencer avec trois anecdotes provenant des arts de gouverner, d'échanger et de sécuriser. La première a eu lieu en 2009 et implique une mine de données contenant un demi-million de numéros de téléphone portable à Cuba. Les numéros de téléphone portable avaient été donnés par un employé de CubaCell, l'opérateur étatique de téléphonie cubain, à un ingénieur cubain qui vivait alors en Espagne. Cet ingénieur cubain transmit cette base de données à titre gratuit, secrètement, aux officiels du USAID, pas la NSA, mais l'agence américaine pour le développement international, ainsi qu'à une société commerciale à Washington, la Creative Associates International, un sous-traitant du USAID. Une manager de Creative Associates se montra alors, on pourrait dire, créative. Elle eut l'idée d'envoyer des SMS en masse depuis plusieurs pays aux utilisateurs de portables cubains afin de contourner le strict contrôle qu'opère l'État cubain sur l'Internet et afin de commencer une forme de réseau social. L'idée était d'essayer discrètement de mettre en place, ex nihilo, une plateforme entière pour les Cubains, un Twitter cubain, avec l'objectif à terme de susciter une opposition politique. L'idée était donc de construire une base d'abonnés par le biais de contenus non controversés, des messages d'information sur le football, sur la musique, sur des mises à jour sur les ouragans, et ensuite d'introduire du contenu politique destiné à inciter les Cubains à organiser des flash mobs, des foules intelligentes, des rassemblements de masse qui pourraient être d'une seconde à l'autre qui pourrait déclencher un printemps cubain ou, comme le dit un document du USAID, renégocier l'équilibre du pouvoir entre l'État et la société. Ils donnèrent à ce réseau le nom Zunzuneo, qui signifie en argot cubain « le tweet du colibri ». En mars 2011, il y avait environ 40 000 abonnés à ce système. Mais aucun d'eux n'avait alors réalisé que ce réseau social avait été créé, soutenu et nourri par les employés du USAID. USAID avait mis en place un système labyrinthe de sociétés écrans utilisant un compte bancaire ouvert aux îles Camaïens et recrutant des exécutants qui ignoraient tous les liens entre la société et le gouvernement des États-Unis. Un des entrepreneurs de l'USAID, Paola Combronero, était chargé de répartir les abonnés cubains entre les catégories pro-révolution, apolitique ou anti-révolution à partir de leurs réponses aux messages. Les documents du USAID indiquent que leur objectif stratégique à Cuba était de les faire sortir de l'impasse grâce à des initiatives tactiques et temporaires et de relancer le processus de transmission vers le changement démocratique. La seconde anecdote concerne l'art d'échanger. Alors en 2004, Google lance Gmail, une plateforme que vous connaissez tous bien. Ce qui a rendu l'idée de Gmail si attractive pour les consommateurs, c'est que Google a fourni à ses utilisateurs une grande quantité d'espace de stockage gratuit, et donc la question de la gratuité. Un gigaoctet, one gigabyte, pour chaque utilisateur. Avant même que le produit soit mis en ligne, un grand nombre d'utilisateurs essayaient d'avoir un accès prioritaire à ce service, et certains ont même payé pour cela. Mais en échange de ce libre accès au cloud, les utilisateurs devaient céder à Google un peu de leur propre liberté. Donc, accès libre aux emails, accès libre aux pièces jointes de tous les utilisateurs, au contenu, de même qu'un accès libre aux emails provenant, entrant de non-souscripteurs, c'est-à-dire les emails de n'importe quel usager communiquant avec un utilisateur de Gmail. Alors, avec cette plateforme Gmail, Google scanne automatiquement tous les mails et leurs contenus afin d'adresser des publicités plus ciblées aux utilisateurs. Ça, nous le savons. Mais un journaliste d'investigation, Yasha Levine, a relevé l'ampleur de cette surveillance bien au-delà de la simple publicité. La compagnie utilise une large gamme de technologies afin de construire le profil de ses utilisateurs, afin de produire un certain savoir numérique, Cela inclut l'analyse des concepts et des sujets discutés par les utilisateurs dans leurs emails, l'analyse du contenu des sites Internet qu'ils visitent, découvrir les informations démographiques, le revenu, sexe, ethnicité, le statut marital des utilisateurs, relier tout cela à leurs informations géographiques, en déduire leur profil psychologique et psychographique, tels que leur type de personnalité, leurs valeurs, leurs centres d'intérêt, leurs attitudes, analyser leur navigation sur l'Internet et étudier leurs précédents achats. Ce type de surveillance commerciale est devenu si important, en fait, qu'elle éclipse aujourd'hui, et comme nous allons le voir, en vient à nourrir le type de surveillance conduit par les agences de sécurité nationale. La troisième et dernière anecdote concerne l'art de sécuriser. L'initiative des services de renseignement britanniques avait pour nom de code Optic Nerve, nerf optique. Pendant une période de 6 mois, au cours de l'année 2008, par exemple, l'agence britannique a intercepté des captures d'écran des communications vidéo par webcam d'environ 1,8 million d'utilisateurs d'Internet se servant de plateformes de chat vidéo comme celle proposée par Yahoo Messenger. À l'inverse d'autres programmes qui ne capturent que les métadonnées, Optic Nerve a pu avoir accès au contenu des communications vidéo, aux véritables images vidéo apparaissant lors de la conversation. Le programme téléchargeait automatiquement le contenu des communications vidéo, prenant une capture d'écran du flux vidéo tous les 5 minutes. Le but, éventuellement, c'était de capter toutes les vidéos en entièreté. L'opération a permis de découvrir une mine d'images classées X. Un document des renseignements anglais déclare qu'il semblerait qu'un nombre surprenant de personnes utilisent les conversations webcam pour montrer des parties intimes de leur corps à d'autres personnes. Selon une analyse informelle de l'agence de renseignement, à peu près 7% des images enregistrées contenaient ce qu'ils appelaient de la nudité non désirée, enfin non désirée par les hauts fonctionnaires des renseignements anglais et même. D'autres documents divulgués par Snowden révèlent que la NSA a étudié la possibilité d'utiliser le système de communication vidéo des consoles de jeux comme moyen d'intercepter les données. Microsoft, le constructeur de la Xbox, a dû faire face à une réaction violente sur le terrain de la vie privée l'année dernière quand les détails sont apparus que la caméra fournie avec sa nouvelle console, the Xbox One, serait toujours activée par défaut. Chacune de ces initiatives dans les arts de gouverner, d'échanger et de sécuriser génère une mine de données additionnelles à propos des individus. Une mine de données utilisable par la recherche en sciences sociales, et nous allons entendre beaucoup de choses à propos de cela aujourd'hui. Mais de la même manière, chacune d'entre elles peut produire une mine de données pour identifier les individus, les pousser politiquement, exercer de petites manipulations, encourager leur consommation, stimuler ce qu'ils révèlent, les observer, les surveiller, les détecter, les prédire, les punir. Les données permettent aux gouvernements, aux multinationales, aux entreprises du quotidien, aux employeurs, aux vendeurs, aux publicitaires, à la police et aux agents d'insertion et de probation, de suivre les mouvements physiques des individus, leur navigation sur l'Internet, de savoir ce qu'ils lisent, ce qu'ils aiment, les vêtements qu'ils portent, avec qui ils communiquent, où et comment ils dépensent leur argent. Un nouveau savoir numérique émerge, lequel a commencé à remettre en question les lignes traditionnelles entre gouverner, échanger et sécuriser. C'est un savoir numérique qui rend ambiguës les limites entre le commerce et la surveillance, entre le gouvernement et l'échange, entre la démocratie et l'État policier. Ce nouveau savoir numérique produit et reproduit des sujets consommateurs qui, ciment ou non, se laissent observer, traquer, relier et prédire au sein d'une amalgame confuse de projets commerciaux et gouvernementaux, pour la plupart d'entre nous qui n'avons pas nos propres PIMS. Comment se fait-il que les intérêts gouvernementaux, commerciaux et de sécurité aient convergé, coïncidé, mais aussi divergé sur certains points dans cette production de big data? Quels secteurs ont stimulé la production et la récolte de toutes ces informations? Comment ces divers projets se sont-ils alignés ou contredits? Comment se fait-il, par exemple, que toutes les nouvelles technologies numériques commerciales semblent faciliter la sécurité et la surveillance? Dans la suite de cette présentation, je vais explorer ces interrogations à partir de deux dimensions. Tout d'abord, je vais essayer à gros coups de pinceau de tracer, exposer l'évolution historique et la croissance de la production de l'univers numérique. Je vais vous proposer quelques catégories afin de comprendre la masse de données qui nous entoure aujourd'hui et poser des fondations sur cette notion d'un savoir numérique. Ensuite, j'étudierai ce qui en suit, je crois, c'est la production d'une nouvelle politique économique relative aux données qui s'est fait jour comme moyen d'aborder quelques-unes des plus grandes et plus importantes relations de pouvoir qui sont en jeu dans notre nouvelle ère numérique. Alors, premièrement, une vue socio-historique de la Big Data. La mesure la plus scientifique et rigoureuse de la capacité technologique mondiale à stocker, à communiquer et à calculer des données a été présentée dans un article scientifique paru dans le journal Science en avril 2011. Les auteurs, Martin Hilbert et Priscilla Lopez, ont mesuré et comparé la capacité des technologies numériques vis-à-vis des technologies analogiques sur la période de 1986 à 2007, en incluant les technologies suivantes, donc que vous connaissez assez bien. Je m'excuse, c'est en anglais, mais ça devrait se traduire assez facilement. Mais donc toute la masse d'informations qui est analogue, comme on connaît les disques, etc., les vieux disques, en contraste avec toute la masse de data qui est maintenant digitale. Alors, tout d'abord, sur la question de la capacité de stockage, il est intéressant de remarquer que la capacité globale, et ce sera plus facile sur un graphe, la capacité globale n'a cessé de croître en raison du développement des technologies analogiques au début. Et c'est la ligne bleue ici. Donc, il y avait une continuation de développement et d'accroissement sur le côté analogique au moins jusqu'en 2000. Mais après cela, bien sûr, la croissance a été exponentielle, un mot qu'on utilise beaucoup, en fait, oui, dans le monde, dans le domaine numérique, comme l'illustre ce graphique. Ensuite, Hilbert et Lopez mesurent la croissance de la capacité à diffuser et à télécommuniquer l'information. Alors, ici, une chose qui est intéressante, c'est que la plupart de la capacité, si on regarde le graphe, la plupart de la capacité pour la diffusion télécommunication reste encore analogue aujourd'hui, et que cette dernière a sans cesse augmenté, mais que l'augmentation s'est déplacée depuis 2000 sur l'ère numérique, comme l'illustre ce graphique. Alors, en ce qui concerne le calcul, le computation, quant à lui, a toujours été numérique. Il n'y a donc pas lieu d'effectuer ici des comparaisons, mais on peut tout de même souligner l'augmentation depuis 2000 dans la capacité technologique, comme on peut voir sur le graphique ici. L'étude de Hilbert et Lopez révèle une augmentation absolument remarquable dans le pourcentage annuel de croissance de la puissance informatique. Et on voit des taux de croissance annuels qui varient entre 40 et 90% depuis 1983. Le résultat, comme leurs données le démontrent, c'est que le pourcentage de capacité technologique repris par les médias numériques augmente à des taux remarquables aujourd'hui. Et donc, dans le domaine du télécom, deviennent à peu près... digital et entièrement digital dans le domaine du storage, du stockage. Si vous rassemblez leurs données sur l'augmentation annuelle, composée des trois domaines majeurs de la capacité technologique, voilà ce que vous obtenez en termes de taux de croissance. Donc, des taux de croissance de computation à travers ces années-là de presque 60%, en contraste avec le stockage qui augmente moins fortement. Ce qui fait que, comme The Economist l'a souligné il y a plusieurs années, et comme c'est reflété dans les données précédentes, l'augmentation de la production des données surpasse largement notre capacité à les stocker. Bon. Passons maintenant donc à la question de la source des données. Selon McKinsey, en 2009, les trois premiers secteurs relativement à la quantité d'informations stockées étaient premièrement « discrete manufacturing », donc l'industrie de la manufacture et la fabrique de pièces détachées, 966 petabytes. Ensuite, le gouvernement, 848 petabytes, et ensuite la communication des médias, et ensuite les autres secteurs. Donc, seulement une partie des données est générée aujourd'hui par les gouvernements, une partie assez petite comparée aux autres secteurs, bien qu'elle augmente, bien sûr, mais comparablement assez petite. De plus, quand on ajoute tous les secteurs, le IDC rapporte en 2013 qu'environ deux tiers de l'information dans l'univers numérique est générée donc par les consommateurs. Donc c'est la source, c'est la source principale, c'est les consommateurs, avec un tiers, donc 1,5 zettabytes, étant généré par les entreprises. Pourtant, le monde des affaires touche environ 85% des données, contrairement à 15% qui représentent donc 0,6 zettabytes qui ne sont pas touchés du tout par les entreprises. Ensuite, pour avoir un peu une idée de comment on pourrait catégoriser les différentes, comment on pourrait faire une classification des différentes données, il y a plusieurs classifications qui sont proposées. Un chercheur, Higinio Maycott, suggère trois types de données: des données intelligentes, des données d'identité et des données des personnes. Alors, l'idée, les données intelligentes désignent la partie du big data qui a été cloisonnée, segmentée, puis visualisée pour un besoin particulier. Donc, ces datas-là sont en fait structurées, et s'ils font partie ou non du big data, on peut avoir une discussion là-dessus, mais il y en a qui pensent que ça fait partie. Elles ont été rendues lisibles à partir de leur état original de collection de nombres binaires et ne requièrent plus l'intervention d'un expert pour être analysées. Les données d'identité seraient peut-être ici le plus important. Elles constituent donc la force derrière la modélisation prédictive, et c'est les médias sociaux, les achats, les cartes bancaires, tout ce qui est associé à l'individu. Ensuite, la troisième catégorie, ce serait des données de personnes qui sont créées par l'agrégation de données sociales à travers le temps. Elles sont collectées en regardant les données échappées d'un grand nombre d'utilisateurs. Et donc, c'est la question de qu'est-ce que votre public, si vous êtes une entreprise, qu'est-ce que votre public aime, qu'est-ce qu'elle suit sur les réseaux sociaux, etc. Donc, de mettre ensemble les données d'identité pour avoir une agrégation des données. Bon, une autre catégorisation serait d'essayer de comparer les données sociales aux données d'appareil, aux données transactionnelles. Donc, les données sociales sont majoritairement générées par le comportement de consommateurs sur l'Internet. Et là, bien sûr, les nombres sont énormes. 230 millions de tweets par jour, 2,7 milliards de j'aime sur Facebook par jour, 60 heures de vidéos téléchargées sur le serveur YouTube chaque minute. Bon, donc, données sociales énormes. Ensuite, les données d'appareils, ça ce serait les informations générées par l'équipement industriel, les données en temps réel fournies par les capteurs qui surveillent et contrôlent les pièces des machines, par exemple, les blogs en ligne, etc. Une illustration serait, par exemple, au CERN, le Large Hadron Collider, qui génère à peu près 40 terabytes de données par seconde lorsque des expériences sont en cours. Ensuite, les données transactionnelles seraient générées par l'agrégation et l'enregistrement des transactions quotidiennes d'une entreprise, les articles vendus, les prix, les informations relatives au paiement, les données de fabrique et du distributeur. Alors là, il faudrait penser à Amazon.com ou bien Domino's Pizza, qui sert 1 million de consommateurs par jour et qui produisent d'énormes quantités de big data de cette manière journalière. Une autre manière de classifier le big data, ce serait finalement par les secteurs. Et donc, ce serait le secteur, premièrement, les individus. Donc là encore, ce serait des données sociales de téléphone portable, par exemple, et les autres échappements de données. Deuxième secteur, ce serait le secteur public et le secteur du développement. Donc, les données de recensement du gouvernement, les statistiques, les indicateurs de santé publique, les données relatives aux taxes et dépenses et d'autres données des installations. Et le troisième secteur, ce serait le secteur privé, et donc les données de transactions, des achats, des dépenses et de la consommation. Donc, telles sont quelques-unes des façons de catégoriser le torrent de données qui est en train d'émerger et qui pourrait nous aider à comprendre cet univers numérique. Passons donc, dans un deuxième temps, à l'économie politique des données. Avec la croissance exponentielle de la capacité technologique, on a vu émerger une véritable nouvelle économie, une industrie remplie de courtiers de données, data brokers, on les appelle en anglais, et des marchés à part entière. En 2012 uniquement, l'industrie du courtage en données a atteint un revenu de 156 milliards de dollars aux États-Unis, ce qui représente 2 fois la taille du budget global des renseignements, des services de renseignement du gouvernement des États-Unis. Donc, l'industrie du courtage de données est 2 fois plus grand que le budget pour les renseignements aux États-Unis. Il y a aujourd'hui plus de 4000 entreprises de courtage en données, certaines d'entre elles cotées en bourse et portant des noms que nous connaissons tous, par exemple LexisNexis ou bien Experian, et beaucoup d'autres plus petites et moins bien connues. C'est un marché qui est marqué par des pratiques assez épouvantables. Par exemple, un courtier en données, Medbase 200, a proposé de vendre à des compagnies pharmaceutiques une liste de souffrants de viol au prix de 69 dollars pour 1000 noms. Medbase vendait cette liste sur son site internet de la manière suivante, que vous voyez dans le dispositif, diapositif, et se dit « Ces souffrants de viol sont des membres de famille qui ont dit ou ont été identifiés comme souffrant de maladies, de conditions ou d'affections spécifiques associées au vol. » Medbase 200 a retiré cette base de données après qu'il y a eu des révélations, de même qu'une liste sur les victimes de violences domestiques, une liste sur les patients atteints du sida, une liste sur ceux qui souffrent du peer pressure, de la pression exercée par leur entourage. Mais le nombre et la variété d'autres listes à vendre est tout simplement stupéfiant. Voici les listes, le début des listes à vendre, commençant par la lettre B. Donc, ceux qui souffrent de back pain, comme moi, par exemple, bedwetting, heureusement non, mais enfin, etc. Bioterrorism, bipolar disorder sufferers at home, birth defects and brain development sufferers. Bon, vous voyez, c'est le début, c'est du BA au BI. Hein. C'est une longue liste alphabétique. La taille de chaque base de données et les informations sur le prix en dollars pour 1000 renseignements figurent dans la colonne à droite. Donc à peu près 69 dollars pour 1000, data points. Comme le New York Times l'a récemment rapporté, InfoUSA, un des plus importants courtiers en données aux États-Unis, a affecté de la publicité pour des listes de personnes âgées à la recherche d'opportunités. Alors ça, c'était 3,3 millions de personnes plus âgées cherchant des moyens de se faire de l'argent. Une autre liste sur les seniors souffrant. Ça, c'était 4,7 millions de personnes atteintes d'un cancer ou de la maladie d'Alzheimer. Donc, pour 79 dollars, on peut avoir le nom de 1000 personnes qui ont le Alzheimer pour les contacter. Vieillot mais cadeau, c'était le nom d'une autre liste. Ça, c'était 500 parieurs de plus de 55 ans pour 8,5 centimes chacun. Et la liste les décrivait comme « ces gens sont crédules, ils veulent croire que la roue peut tourner ». Les données de consommation sont devenues donc une commodité, son commerce un marché hautement compétitif. Le taux en vigueur pour l'information varie. En général, plus l'information est intime, plus elle a de valeur. Par exemple, une information basique telle que l'âge, le sexe, la localisation se vend pour 50 centimes par centaine de personnes. Mais l'information à propos d'individus, par exemple, soupçonnés d'être influents dans leurs réseaux sociaux, se vend pour 75 centimes. Les données à propos de revenus et historiques des achats se vendent pour 1 dollar par centaine. Donc, on pourrait se demander qu'est-ce qu'il y a de vraiment libre dans ce libre marché des données. Peu de choses, excepté peut-être l'accès du gouvernement à celles-ci. Une chose qui ne semble rien coûter, ou presque, c'est la possibilité pour le gouvernement d'accéder à ces mines d'informations. C'est ce qui, en partie, est en train de déconstruire cette frontière entre l'État et l'échange. Le programme PRISM est un bon exemple aux États-Unis. Lancé en 2007, le programme PRISM permet à la NSA d'accéder aux données de Microsoft, Yahoo, Google, Facebook, Paltalk, YouTube, Skype, AOL, Apple et d'autres, pour un coût total du programme de seulement 20 millions de dollars par an. C'est rien. C'est presque gratis pour un pays comme les États-Unis. Voici la diapositive PowerPoint utilisée par la NSA pour décrire l'historique du programme PRISM tel qu'a été divulgué par Edward Snowden et publié par The Guardian. Le programme PRISM donne accès au gouvernement aux emails des individus, à leurs photos, vidéos, pièces jointes, VOIP, etc., à un coût pratiquement nul pour le gouvernement. Il fournit un accès presque complet à leur vie numérique. Et bien que la NSA dénie qu'elle ait eu un accès immédiat aux données, les documents de la NSA divulgés par Snowden établissent que l'agence revendique, selon eux, la collection directement depuis les serveurs des fournisseurs majeurs des États-Unis. En conclusion, l'ère du spectacle dans l'Antiquité était une preuve du coût de la publicité. Rendre quelque chose public était coûteux, et les anciens devaient donc s'amasser dans un lieu commun pour observer, partager, prendre part ensemble à l'acte de voir. L'ère de la surveillance au XIXe siècle, en revanche, nous a offert une preuve du coût de la sécurité. Surveiller et corriger les individus était coûteux. L'invention des nouvelles institutions de détention a été conduite en grande partie par la recherche de moyens plus efficaces. Nous sommes entrés dans une ère maintenant de publicité sans coût. Aujourd'hui, cela ne nous coûte rien de diffuser son information. Au contraire, l'information elle-même a de la valeur. La plupart des personnes l'abandonnent gratuitement. Dans beaucoup de cas, on y est forcé. Nous entrons nos propres données personnelles sur des sites internet de réservation de billets d'avion, sur Zappos.com, sur Amazon. Et c'est précisément cette ressource naturelle qui a donné lieu à une nouvelle politique économique des données, une politique économique de la publication ou de la publicité ou du rendre public. Qu'advient-il lorsque nos modes de communication eux-mêmes et nos actes d'existence de tous les jours, quand chaque mot que nous prononçons, chaque note prise, chaque lettre écrite, toute photo et toute vidéo, même notre battement de cœur, nos taux de cholestérol, nos caractéristiques faciales, nos retraits bancaires, nos validations de tickets de métro, etc., peut être enregistré, stocké, lié, extrait et analysé par des machines avec des capacités de calcul qui excèdent de loin celles du cerveau humain. La réponse, semble-t-il, est un marché des données florissant, qui rend possible des formes de contrôle et de surveillance que nous n'aurions jamais imaginées, excepté peut-être dans les dystopies orwelliennes. Cette nouvelle et émergente politique économique des données a été rendue possible non seulement par l'innovation technologique, bien que la technologie ait certainement été au premier plan de tout ceci, mais également par une nouvelle forme de pouvoir qui nous a enseigné à volontairement donner nos informations lorsqu'elles étaient demandées, à nous identifier, à révéler nos plus profonds secrets, à se conformer aux requêtes, et ironiquement, dans un pays comme l'Amérique, un pays de propriété privée, à ne jamais nous sentir que nous avions droit à une propriété privée sur notre propre identité et toutes ces informations personnelles. Les conséquences sont considérables, en particulier dans la mesure où elles brisent les frontières traditionnelles qui séparent gouverner, échanger et sécuriser. Je vous remercie.